Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Et oui, nous en sommes déjà au dernier épisode de la 5e saison de notre émission. Et pour l'occasion, j'ai pensé réunir en studio notre belle équipe, composée de Michel O'Neill, notre serin pèlerin, Michel Cousinat-Baudet et sa chronique « Le corps en marche », et notre merveilleuse lectrice Sophie Hartung et sa balade des mots. Au cours de la prochaine heure, grâce à une autre fabuleuse lecture de Sophie, nous effectuerons un voyage dans le temps, soit les péripéties d'un aventurier français qui s'est glissé dans la peau d'un pèlerin du XIIIe siècle lors d'une reconstitution fidèle de pèlerinage d'antan. En deuxième partie d'épisode, notre serein pèlerin nous propose un amusant quiz, question de nous faire revivre en statistique les 5 dernières saisons de Marcher vers le bien-être. Et enfin, Sophie nous revient avec une autre lecture ou deux, en plus d'une surprise à la Provençale qu'elle nous réserve pour notre 6e saison. Alors, bonne écoute et que le plaisir commence! Et nous voilà, c'est la fin de la 5e saison et nous sommes tous réunis en famille. La belle famille de Marcher vers le bien-être. Nous avons en studio aujourd'hui Michel, notre serein pèlerin.
Cui, cui, cui.
Michel, notre chroniqueuse, ostéopathe et toutes ces belles choses du corps humain.
Bonjour, Denis.
Et Sophie, notre charmante lectrice.
Bonjour, Denis.
Alors, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui avec, en famille, comme je le disais, là, pour célébrer la fin de cette 5e saison. Nous allons aujourd'hui parler de nos impressions de la saison qui se termine aujourd'hui. Nous allons parler de la saison prochaine, qu'est-ce qu'on prévoit. Il y a Michel qui va nous suggérer un petit quiz.
Oui, à la maison, là, sortez vos crayons, alors... C'est une surprise, ils ne savent pas exactement ici non plus. Alors, je les vois un peu là, anxieuses.
Nous le sommes tous. Pour tout débuter, Sophie, vous allez encore une fois nous lire un merveilleux texte qui a pour titre « Dans les pas du pèlerin de Saint-Guilhem ». Il a été proposé par un de nos fidèles auditeurs de Rimouski, M. Leblanc. Et le texte paraît dans une revue qui s'appelle Magazine Historia, à l'édition de décembre-janvier 2026, que nous mettrons d'ailleurs sur notre site pour ceux et celles qui aimeraient relire le merveilleux texte un peu plus tard. En fait, ce reportage raconte l'expérience de Willy Minec. C'est un aventurier épris d'histoire médiévale qui voulait faire un voyage dans le temps tout à fait particulier. En fait, il s'agit d'une reconstitution fidèle jusque dans les moindres détails, de l'habillement à la nourriture, tout à fait comme le vivaient les pèlerins du Moyen-Âge. Et comme l'indique l'introduction à l'article, c'était pour Minec à la fois un dépassement de soi et une quête de sens. Alors Sophie, on vous écoute.
Ce matin-là, il fait 2 degrés à tout casser. Le vent souffle en rafale. L'eau de la rivière du Besse est glaciale. Au cœur de la Lozère, une épreuve redoutée attend Willy Minec. Pour des raisons de véracité historique, il ne peut de toute façon pas emprunter le pont de Marchastel situé à 2 km en aval. Cet édifice n'a été construit qu'au XVIe siècle. Je dois donc traverser ce cours d'eau, confie l'intéressé. Pour explorer l'histoire médiévale autrement, le bientôt quinquagénaire a en effet choisi de se glisser dans la peau d'un pèlerin du XIIIe siècle engagé sur le Camin de Saint-Guilhem. Trait d'union entre le Massif central et la Méditerranée, cet itinéraire relie le haut plateau de l'Aubrac à l'arrière-pays montpelliérain. Cette voie ne fut d'abord qu'un chemin de commerce et de transhumance. Elle devient un chemin de pèlerinage avec Guillaume de Guélone, Guilhem en occitan, ancien comte de Toulouse et proche de Charlemagne, fondateur au début du IXe siècle d'une abbaye qui portera son nom. Les fidèles y vinrent dès lors nombreux pour vénérer des reliques précieuses comme un morceau de la Sainte Croix, des fragments de linge de la Vierge ou encore le corps du fondateur canonisé en 1066. Le goût de Willy Minec pour l'histoire est ancien. Jusqu'à ses 18 ans, il aspire à devenir égyptologue. L'époque médiévale le passionne aussi. C'est le code génétique de l'aventure, l'inconnu, l'obscur, le mystique et le chevaleresque. La vie en décide autrement. Il exerce d'abord dans le monde professionnel de l'encadrement sportif avant finalement de suivre ses rêves. Depuis deux décennies, il traverse à pied les déserts, escalade les montagnes et nage dans les fleuves, des explorations musclées façon Mike Horn. Willy n'a pour autant jamais oublié ses chevaliers. Leurs aventures ont continué de m'interroger, car voyager au Moyen-Âge, c'était comment ? Ainsi naît le projet « Le voyageur de l'histoire », une traversée hivernale dans les conditions du XIIIe siècle, sans tente, ni duvet, ni carte, mais avec Bourdon, l'emblématique bâton de pèlerin, et besace. Un bond dans le passé pour éprouver autant le corps que l'esprit. Pour se glisser dans la peau de Guillaume Coutel, un personnage fictif parti en pèlerinage pour demander à Saint-Guilhem un miracle afin de sauver son fils, Willy pense à son équipement, ses vêtements ou encore sa nourriture dans les moindres détails. Il lance en amont des collaborations avec les médiévistes et s'appuie sur des spécialistes de reconstitution historique. Grâce à des artisans et des historiens, il s'équipe aussi fidèlement que possible. Sa besace est fabriquée selon un exemplaire trouvé lors d'une fouille en 2022. Ses bottines sont confectionnées d'après un modèle daté de 1275. Tout doit coller au plus près du réel de l'époque, car pour transformer cette aventure personnelle en une étude vivante riche de sens, rien de mieux que l'immersion expérientielle. Plus la reconstitution est fidèle, plus l'immersion est totale, mais surtout, plus l'analyse des outils anthropologiques mis en place est a posteriori précise et fiable. Une rigueur, selon lui, indispensable pour favoriser la bascule historique. Retour sur les bords d'une rivière, à Rieutort-d'Aubrac, en Lozère, par un matin glacial d'hiver. Après quelques allées et venues dans l'eau froide, Willy plonge dans l'inconnu. L'engagement du corps est à ce moment-là tellement total qu'il parle à mon intellect, lui disant « Tiens, ce froid, ces coups de poignard, la douleur, c'était ça, mon gars, ce que devaient endurer Guillaume et les pèlerins. » Autre moment fort de son voyage, le troisième jour, dans les plaines de l'Aubrac, Guillaume, alias Willy, arrive épuisé devant la croix de la Rhode. Érigé au croisement de deux chemins de transhumance, des drailles, ce monument émerge alors d'un épais brouillard. Je communiais avec les lieux. J'étais comme habité et transporté. Mêmes émotions fortes le lendemain sur le plateau de l'Aubrac, très venteux en plein hiver, quand Willy parvient, toujours en Lozère, devant la collégiale de Saint-Martin à la Canourgue, un bâtiment construit par les moines de Saint-Victor au XIIe siècle. Là encore, ses sens s'emballent. Oh, j'ai eu comme un flash. Je foulais les mêmes pierres pavées que Guillaume et ses pères. Je refaisais les mêmes gestes à 8 siècles d'intervalle. J'éprouvais comme eux des émotions fortes, mais d'autres plus basiques. J'étais en effet enfin au sec. J'avais un toit pour manger chaud et faire sécher mes affaires. Cela apaise la fatigue, exacerbe les sens et la foi quand on l'a. Au fil de sa route, la spiritualité s'est imposée à Willy, lui, le non-croyant. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas de religion mais de foi. Dieu existait, comme la pluie tombait du ciel, point, confesse l'intéressé. Son voyage dans l'histoire l'a ainsi obligé à comprendre les paradigmes de jadis. La foi faisait partie des béquilles psychologiques du pèlerin d'alors. Dieu pourvoyait à tout. J'en ai pris conscience en marchant. Ces moments sensibles referont leur apparition durant son expédition, surtout lorsque la faim et la fatigue le gagneront. Il n'y avait alors plus aucun marqueur temporel. J'étais Guillaume Coutel, le personnage fictif de mon aventure. C'est un brin schizophrénique, mais j'ai ressenti des émotions intenses. L'immersion n'a néanmoins pas pu être totale. Willy n'avait à se méfier ni des brigands, ni des loups, conscient de toucher là aux limites de son mode exploratoire. Au final, le marcheur de l'histoire a parcouru 270 km à pied en 16 jours. Il a avalé 6800 mètres de dénivelé positif et a connu peu de bobos. 3 cloques au pied au départ, le temps de se faire aux chaussons. Et puis, plus rien. Les séquelles surviendront à son retour à la vie normale avec un symptôme de pied creux acquis. D'autres enseignements sont plus marquants. Willy a compris qu'au Moyen-Âge, un voyage était certes plus risqué, mais plus social. On voyageait grâce à l'autre. Un pèlerin voyageait léger. Il savait qu'il avait de grandes chances de disposer chaque soir du gîte et du couvert dans un monastère ou chez l'habitant. Une autre révélation est survenue à la frontière de l'Aveyron et de la Lozère, au croisement, plus précisément, des gorges de la Jonte et du Tarn. Après des heures de labeur et de marche, j'étais face à un paysage incroyable, face au merveilleux et à l'indicible. Ton horizon s'élargit, tes perceptions sont décuplées et cela t'incite à réfléchir profondément sur toi et sur ta foi. Ce n'est plus seulement le monde que tu contemples, mais ta propre intériorité qui s'éclaire. Un glissement s'opère alors vers la quête de soi, ce qui est alors totalement subversif. Au Moyen-Âge, l'individu évoluait en effet dans un monde codifié. Il s'inscrivait dans un collectif paroissien, exerçant un métier utile pour la communauté. Le nomade était un soldat, un pèlerin ou un renégat. Partir sur les routes impliquait d'affronter l'inconnu, mais offrait également la possibilité de découvrir de nouvelles perspectives. Tout s'est accéléré au XIIIe siècle, selon Willy Minec, avec l'émergence de l'approche mercantile du voyage. L'hébergement n'est alors plus seulement fondé sur la charité chrétienne, mais aussi sur un rapport marchand avec l'émergence des auberges. Même bouillonnement dans la sphère culturelle, l'idéal chevaleresque se développe durant cette période avec l'apparition du roman, un récit en langue romane, d'où son nom laïque et non latine. Jusque-là, la littérature ne traitait que des textes sacrés et de la vie des saints, pointe Willy. Adepte d'une approche novatrice que des spécialistes du monde médiéval ne manqueront probablement pas de contester, Willy est persuadé du bien fondé de son entreprise. À ma façon, j'ai exploré le voyage médiéval non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité, en engageant le corps et l'esprit à travers le temps et l'espace. J'ai interrogé l'histoire, mais aussi exploré ces zones grises pour bousculer les frontières de nos connaissances, aime-t-il à répéter. Une mission assignée à tout bon explorateur.
Et voilà, une merveilleuse lecture, Sophie. Il y a un encart dans cet article qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque? Et on y trouve la réponse.
Oui, outre ses vêtements, son chaussant et son bourdeau, Willy Minec a reproduit à l'identique l'alimentation d'un pèlerin du XIIIe siècle. Il coupe donc son eau avec du vin blanc, buvant jusqu'à 3 litres par jour de ce breuvage, entre 4 et 5 degrés d'alcool. Après 4 heures d'effort, tu peux vite être pompette, s'amuse l'aventurier. Pendant la journée, il mange du pain, des fruits secs oléagineux, de la viande et du fromage séché. Un régime alimentaire peu varié, car la pomme de terre, les haricots verts et les tomates n'avaient encore pas fait leur apparition en Occident. pour ses dîners, Willy s'est basé sur des sources anciennes comme le Liber de Coquina, l'un des tout premiers ouvrages du genre écrit en latin par un anonyme vers 1300. Une invitation à découvrir des plats d'époque comme la carbure de canard, un plat agrémenté de pois chiches, d'ail, de panais, de carottes ou de châtaignes. Le brouet de choux au lard, souvent servi sur du pain, la purée verte à base de blettes et de persil, ou encore la galimafrée, un ragoût avec des restes de viande. Un régime alimentaire, finalement, très adapté à ses efforts.
Et de santé.
Et de santé, sans doute.
Alors Sophie, que vous inspire ce texte ?
Ce que je trouve très joli, c'est le voyage dans le temps. Et tout d'un coup, de se remettre dans des conditions, je dirais, moyenâgeuses, pour aborder cette façon de marcher, comme le faisaient nos ancêtres.
Oui.
Et puis, la deuxième chose qui me frappe, c'est la façon dont il parle tout d'un coup du fait que la marche l'amène à la foi, ou en tout cas à se questionner sur la foi, chose à laquelle au départ, parce qu'il dit même qu'il est non-croyant, alors on ne sait pas si au final il est converti, mais en tout cas tout d'un coup c'est une autre réflexion, à quel point au fond la marche, surtout là il fait quand même 270 km, amène inévitablement à des questions d'intériorité et à mon sens, à un rapport à une transcendance, à quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand, parce que je pense qu'il faut aussi de l'aide pour faire 270 km en 16 jours. En tout cas, moi, il m'en faudrait beaucoup.
Et c'est un peu la réflexion que se sont fait plusieurs de nos invités à l'émission de cette saison et puis auparavant, que le chemin leur apporte une espèce de révélation spirituelle. Alors Michel, vous êtes un habitué de la marche pèlerine et vous connaissez justement
effectivement,
ce petit chemin-là.
Moi, j'ai marché l'Aubrac, exactement le même parcours que lui a marché. Et sur le texte, il y a une photo de ce qui s'appelle la Tour des Anglais, en fait, qui est à Saint-Chély-d'Aubrac, où j'ai dormi, parce que c'est un des gîtes où on peut dormir. Et je me souviens tout à fait, moi c'était en 2003, ça fait 23 ans déjà, oui. Et je me souviens parfaitement bien de cette journée-là, parce que la plaine de l'Aubrac, c'est un milieu qui est vraiment quand même assez aride. Il n'y a
aride,
pas grand-chose.
Oui.
On marche dans ce qu'on appelle des drails, entre des clôtures qui sont faites avec des pierres accumulées, donc on marche dans des petits...
Ah oui, oui.
Et c'est à peu près une des seules fois, dans toutes les fois où j'ai marché sur les chemins de Compostelle, où j'ai manqué d'eau dans ma journée. Parce qu'il y a vraiment très, très peu de choses. Moi, j'avais 2 litres d'eau, puis ça n'a pas été suffisant pour ma journée.
Oui.
Et aussi, quand je suis arrivé en vue de cette fameuse Tour des Anglais, il y avait un orage qui approchait de l'autre côté. Je suis arrivé vraiment juste à temps. Donc, j'ai vraiment un souvenir tout à fait précis de ce lieu en particulier qui est... Puis que quand moi je suis parti du Puy-en-Velay à cette fois-là, donc c'était après 5 à 6 jours de marche, ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé, donc c'était quand même assez notoire.
Oui.
Et l'autre chose qui me frappait aussi, c'est qu'on a au Québec une personne qui s'appelle André Doucet, qui a... c'est un peu notre pèlerin du Moyen-Âge, si on peut dire.
Oui?
Parce
que
lui a fait... Il a fait au-delà de 30 000 kilomètres à travers le Québec en une quinzaine d'années, déguisé en pèlerin du Moyen-Âge, pour, entre autres, faire une levée de fonds constante pour toutes sortes d'organismes par rapport à ça. On pourra aussi, dans notre... sur le site, donner une petite référence.
Une référence, oui.
Puis lui, c'est un des premiers pionniers de toute l'aventure compostellane au Québec, parce que en 1999, avec une autre personne, ils ont fondé l'Association de Québec à Compostelle. C'est quelqu'un de la ville de Québec.
Ah oui.
Qui... L'année suivante s'est transformée avec des associations un peu similaires qui s'étaient, ou des regroupements, dans le fond, qui s'étaient déployés un peu partout au Québec. Ils ont fondé l'association du Québec à Compostelle. Alors, on est passé de Québec à Compostelle, hein, du Québec à Compostelle. Mm-hmm. Et M. Doucet a été un des initiateurs de cette initiative.
Et pour une bonne cause?
Ah ben tout à fait.
Ça.
Pour plusieurs bonnes causes, en fait.
Oui.
Là. Et puis lui, avec son déguisement là, de pèlerin du Moyen-Âge, son bourdon, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un vrai bâton en bois. Là. Il n'était pas avec des bâtons télescopiques.
Oui,
puis
oui.
Il faisait signer les gens sur son bâton. Puis à un moment donné, quand c'était rempli de signatures, ben il le donnait à un endroit en particulier. Donc c'est vraiment un personnage assez, assez particulier, dans le fond. Puis ça m'évoquait un peu ce texte-là, ce personnage québécois.
Et je pense qu'il recueillait des fonds en même
tout
temps,
fait.
C'est ça?
Ouais,
oui,
ouais. C'est ça, il a recueilli dans le, ce qu'il disait 1,2 million dans l'ensemble de ces années où il a marché. Je l'ai revu l'an dernier. Le texte que j'évoque avec la photo, ça datait de 2017. Moi, je l'ai revu en 2025, l'an dernier,
oui.
Aux 20 ans de l'Association du Québec à Compostelle, puis il était encore tout à fait vert et de bonne humeur. Alors, je ne sais pas si ça continue à marcher à chaque année, mais un personnage.
On pourrait l'inviter à l'émission tiens.
Éventuellement, oui.
Et Michel.
Michel. moi, ce qui m'a marqué dans le texte, c'est la place centrale que le corps prend dans toute l'expérience. Mm-hmm. Ici, on parle d'un pèlerinage... d'une histoire du Moyen-Âge, mais au fond, c'est aussi une aventure profondément physique.
Oui.
Donc, marcher pendant des jours en affrontant le froid, la fatigue, transporter un équipement lourd, on est très loin du confort moderne, là. Mm-hmm. Et dans ce contexte-là, le corps prend toute la place. Souvent, c'est le corps qui devient un révélateur. Donc, il va nous montrer nos limites, nos tensions, nos habitudes, mais aussi notre capacité à s'adapter. Donc, on pense souvent que c'est la tête qui décide, mais en réalité, c'est le corps qui envoie les premiers signaux.
Oui, bien, quand il disait, là, je traverse la rivière au fret,
au
là,
froid, c'est ça.
Je prends pas le pont, mais là, je traverse la rivière, là.
Donc, tu sais, le froid, la douleur, la fatigue, et c'est ensuite qu'on comprend. Donc, à force de marcher, il y a quelque chose qui change dans la perception. Les paysages vont devenir plus intenses, les sensations plus présentes. Mm-hmm. On part pour marcher, mais souvent, on se retrouve à réfléchir sur soi.
Oui.
Et pas nécessairement de façon volontaire, mais parce que le corps est tellement engagé qu'il laisse moins de place au mental habituel,
oui.
Puis on devient mm-hmm. plus présent, plus conscient.
Oui. Oui.
Donc, moi, c'était cet aspect-là.
C'est intéressant. Et à l'époque, on n'avait pas l'avantage qu'on a aujourd'hui de vous écouter, à Marcheur de bien-être.
Ouais.
Justement pour les bons conseils que vous nous donnez, parce qu'on n'avait pas d'exercice à ce moment-là, on n'avait pas
non,
de préparation comme on l'a aujourd'hui.
Ben, je pense pas, mais ben, peut-être, on ne sait pas.
Bon, mais en même temps, les gens, comme on était dans les sociétés traditionnelles, les gens étaient toujours actifs.
Bougeaient constamment,
donc,
effectivement.
Donc, c'est très différent
ouais.
par rapport
ouais.
à...
J'ai été en contact avec la Terre, donc oui. Je pense qu'il n'y avait pas... je veux dire, l'exercice physique faisait... Ils n'avaient pas besoin... Justement, ils n'avaient pas besoin d'exercice physique. Ils étaient l'exercice ouais. physique.
Je pense que le problème, c'est la chaise. C'est à partir du moment où on a créé la chaise, puis là, on est de plus en plus mobile. Mais effectivement, les gens qui travaillent sur des fermes,
oui.
ils vivent longtemps et en santé, oui, et physiquement... ouais.
Oui. Alors, nous allons prendre une pause musicale et nous allons revenir avec Michel, votre quiz. Là, ça m'intrigue beaucoup.
Alors, après la pause.
Alors, nous sommes de retour avec Michel et Sophie, la petite famille, la grande famille de Marcher vers le bien-être. Et Michel, c'est à vous maintenant et vous avez préparé un quiz.
Et oui, en fait, comme les gens qui nous écoutent depuis un certain temps le savent, je suis sociologue de métier, donc j'aime bien analyser. Et je me demandais comment analyser les 5 saisons que nous avons faites ensemble. Et puis, je me suis dit, on va faire un petit quiz, hein, ça va être plus ludique.
Oui, ben oui.
Et donc, pour les gens qui se demandent toujours qui est ce serait Pèlerin, je vous invite à aller écouter l'épisode 14 de la saison 2, où là, j'explique en long et en large comment l'idée du serein pèlerin est arrivée. Et j'ai 10 petites questions que j'ai préparées pour nous amener dans les 5 dernières saisons. Et la première est assez simple, dans le fond. Alors, combien d'épisodes d'une heure avons-nous fait depuis septembre 2021? Est-ce que c'est 95, 125 ou... 155.
Ah, c'est à choix multiple, c'est plus facile
ben oui,
quand même.
C'est ça,
alors, Michel, vous souriez.
J'ai aucune idée, mais moi, je suis pas là depuis le début, mais je me rappelle que vous avez déjà nommé le nombre d'épisodes, mais là, j'arrive
alors,
pas.
Alors, qu'est-ce qui semblerait 95, 125, 155?
Je vais dire 125.
OK.
Sophie?
Moi, comme je suis une extrémiste, je vais dire 155.
Ça, c'est une extrémiste vers le haut, là,
pas toujours, là. Toujours.
Et Denis, ben là, vous savez combien avons-nous fait d'épisodes?
Hein? 155.
Oh, wow!
C'est bravo!
Deuxième question, et ça nous concerne un peu tout le monde. Combien d'heures de travail en moyenne pensez-vous que ça prend pour faire un épisode de Marcher vers le bien-être? Alors, ça compte le travail de Denis, oui. La recherche, nos recherches chacun. J'ai fait
un
estimé à peu près. Donc, est-ce que vous pensez que c'est 15 heures, 20 heures ou 25 heures de travail en moyenne que ça prend? Puis peut-être que nos auditeurs seront étonnés de savoir tout le temps que ça prend pour préparer une heure d'émission. Alors, j'ai mis 15, 20 ou 25. Qu'en pensez-vous?
Je reste avec moi. On va être toujours un peu dans le milieu.
Pour une fois, je vais être mesurée. Je vais dire 20 aussi au regard de... Oui, je dirais une vingtaine d'heures.
Et Denis?
Moi, je dirais plutôt 25.
C'est vrai. Et
pour expliquer, parce qu'il y a la recherche, bien sûr, qui prend du temps.
Oui.
Les pré-entrevues qui prennent un peu de temps.
Oui.
Les allers-retours au studio, en fait, parce qu'on doit compter ça comme du temps...
Ah ben là, si c'est ça, puis le temps de marche que ça prend, on s'en va... On s'en va vers le 50 heures.
Mais moi, je ne pensais pas, j'avais pas inclus ça. Moi, dans
mais sinon, je me rallie à la majorité, là.
Une vingtaine
d'heures, quand même.
Oui. Ben, moi, je pense que j'avais mis 20 heures aussi, parce que vous m'aviez déjà dit que vous, c'était à peu près une quinzaine d'heures, là, pour l'ensemble pré-entrevue, pré-montage, montage, remontage, etc. Puis moi, je me disais, quand je regarde ma propre préparation, c'est à peu près 5 heures, grosso modo. Fait que je me disais, ça ressemble peut-être à ça. Fait qu'en moyenne, peut-être une vingtaine d'heures, c'était quand même pas si mal.
Il y a un autre facteur intéressant parce que parfois je dois me rendre dans la très belle ville de Québec justement, et là je pourrais compter un tout petit peu aussi le temps de déplacement, mais là ça bousille
pas à la
un
marche.
Peu oui sinon parce que là je serai toujours à Québec.
Question 3.
Oui.
Alors, sur les 155 épisodes, 155e aujourd'hui, combien vous pensez d'épisodes ont inclus une chronique par un ou l'autre d'entre nous?
Oh.
Est-ce que c'est 53, 73 ou 93?
Là, Michel respire.
Ouais, non. Moi, j'aime ça être bon élève.
Donc, 53.
Je pense que là, on accumule les chroniqueurs, donc il y a de plus en plus de chroniques, mais au début, je ne sais pas s'il y avait des chroniques toujours.
Oui.
Je vais rester avec ma réponse B, toujours centrale. Là.
Bon. 53, 73, 93.
Moi, je trouve 53, c'est trop peu. Donc, je vais aller vers le 93, encore une fois.
L'extrémiste.
Encore l'extrémiste, c'est-à-dire...
Il traîna plus haut, plus loin.
Un peu plus loin, oui.
En fait, c'est 73,
c'est
la réponse du milieu. Ben, c'est vrai, j'ai oublié de vous demander, Denis, vous-même. Mais là, vous avez la réponse.
J'ai la réponse.
En fait, il y a eu... plusieurs sortes de chroniques. En fait, des deux premières années, j'ai été seul à faire des chroniques.
Ah,
donc,
c'est ça.
À ce moment-là, il y a eu 6 chroniques sur la marche pèlerine et 10 chroniques marche et politique sur 2 saisons par rapport à ça. Ensuite de ça, ben là, Michel est entré en fonction et sur l'ensemble du temps où elle a fait des chroniques, elle a fait 25 chroniques jusqu'à maintenant.
Même.
Ben oui,
quand même.
Sur le corps en marche en 2 saisons. Et puis en 2 saisons, ben moi, ma troisième version de chronique était Les trouvailles du serein pèlerin depuis 2 ans, alors 25 aussi, fait que ça fait un total de 73.
Bon.
Et ben depuis cette année, on a la balade des mots, en fait, qui est intervenue 6 fois, un peu plus formellement. Là, donc, avec le total là, de 73. Donc, quatrième question. Au cours des 155 épisodes excluant les chroniqueurs que nous sommes, combien vous pensez qu'il est passé d'invités différents dans les 5 années, les 5 saisons? 91, 111 ou 131?
131.
131.
Moi, je vais dire 111 parce que j'aime le 1-1-1.
Ah, ah, ouais.
Plusieurs.
Alors, qu'est-ce que vous diriez comme...
Moi, je me rallie cette fois à Sophie à 111.
Ah ben, vous êtes en plein dans le mille.
Oui.
C'est 111. Et en fait, on a eu une...
plusieurs récidivistes.
Quelques récidivistes. La plus grande récidiviste, qui vous pensez que c'est...
C'est peut-être Mme Saint-Hilaire.
Exactement. Anne Saint-Hilaire, qui est venue 9 fois.
Oh!
Ensuite de ça, on a eu 8 personnes qui sont venues 4 fois. Patrick Auger, Yves de Belleval, Michel Desgagné, Denis Dumais, Éric Laliberté, Louis Lefebvre, Yannick Pro et Guy Vermette. Ah oui. Et on a eu 4 personnes qui sont venues 3 fois. Christine Angelard, Martine Breuillot, Dania Ramirez et José Sabourin. Et 11 personnes qui sont venues 2 fois, que je nommerai pas toutes, là, mais quand même, on a eu une panoplie à la fois de vétérans et de mais 111 personnes quand même. Ça, c'est
considérable.
Considérable. Ah oui. 5e question. Les invités représentaient, selon vous, combien d'organismes ou d'entreprises qui sont venus? Alors, 54, 64 ou 74?
Moi, je dirais 54.
Moi aussi, je l'ai dit.
Moi, c'est drôle, j'aurais dit 54 aussi.
Ah, ben là.
Bingo.
Oh, wow!
Les plus fréquentes, en fait, qui sont venues, c'est ben, le centre à Anne-Saint-Hilaire, qui s'appelle le centre de la Tienda d'ici à Compostelle. Donc, okay. L'Association du Québec à Compostelle a eu plusieurs représentants de toute nature. On a fait un partenariat l'an dernier avec la chaire de recherche du Canada, une seule santé urbaine de l'Université de Montréal. Donc, ils sont venus à plusieurs reprises aussi. Santé à pied, kilomètres, accès transport viable, les bottes et vélos aussi sont des petites entreprises qui sont venues assez fréquemment. Question 6 maintenant. Alors, j'espère que chez vous, à la maison aussi, là, vous avez sorti vos crayons. Combien d'épisodes sur 155 ont été sans invité, c'est-à-dire des épisodes qu'on a appelés texte et musique? 16, 26 ou 36?
16.
Moi, je dirais 16 aussi.
Oui.
Et je dirais 16.
Ah, ben là, c'est 26.
Ah!
À ce point-là?
Oui, ben, oui, parce que je compte aussi la balade des mots.
Ah, d'accord.
Ah, d'accord.
Les
6
de balade des mots, donc ça faisait 26.
Une chronique, ouf! Ça faisait être une chronique.
On l'a échappé belle, là.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est parce que c'est une chronique qui est quand même assez longue, durant laquelle il n'y a pas d'autres invités.
C'est parce qu'on apprécie tellement votre belle voix.
Oui, aussi parce que je prends beaucoup de place.
Ah, oui. Mais une place tellement mélodieuse que personne ne s'en plaint. Question 7 maintenant. Combien d'épisodes sur 155 ont été des témoignages de personnes qui sont venues nous conter un peu l'effet de la marche sur leur vie? Alors, est-ce que c'est 35, 55 ou 85 parmi les 155?
Sur 5, moi, j'opte encore pour le 85.
Je vais dire 55 juste pour faire différence.
Bon, mais moi, je m'abuse, je veux dire 35.
Bon.
C'est 85.
Ah, c'est fini. Toujours dans l'excès, ça fonctionne.
Et 8e question. Dans les différents épisodes, on a parlé beaucoup de parcours un peu partout. Et il y avait 3, si on va sur le site, en fait, et le moteur de recherche, puis je suis parti beaucoup du moteur de recherche pour faire tout ça. Donc, on a parlé de sentiers au Québec, de sentiers ailleurs qu'au Québec, à travers le monde, sauf Compostelle et Compostelle. Alors, dans ces 3 catégories-là, laquelle vous pensez qui a été la plus fréquente? De quoi on a parlé le plus dans ces 3 types de parcours?
Je veux dire Compostelle.
Je dirais Compostelle aussi, oui.
Je me rallie.
Ah ben, malheureusement, c'est pas ça.
Ah,
le plus, ça a été des sentiers au Québec.
Ah, OK.
Toutes sortes de parcours et de sentiers au Québec. Puis le deuxième, ça a été des sentiers ailleurs qu'au Québec à travers le monde. Et Compostelle.
Ah, oh, t'es vraiment
mais,
pas...
Mais quand même, le premier, c'était 54 fois, le deuxième, 52, le troisième, 47. Fait que ça, on est pas mal toutes dans les mêmes zones, si on peut dire.
Oui, bravo pour le Québec, alors.
Bravo pour le Québec.
Absolument.
Alors, 9e question. On a parlé de 16 types de marches que je vais vous énumérer, puis vous essayerez peut-être de retenir lequel dans ces 16 types de marches-là a été le plus fréquemment évoqué. La longue randonnée trekking, la marche active, la marche afghane, la marche chantée, la marche connectée, la marche de longue durée ou pèlerine, la marche méditative, la marche nordique, la marche pieds nus, la marche sans trace, la marche urbaine, le pèlerinage, la promenade, la randonnée d'un jour, la raquette, le Shinrin Yoku et la Volksmarche. Alors, d'après vous, y a-t-il quelque chose qui ressort?
Il y en a une que j'avais notée, c'est plus hostile. La marche C'était pèlerine, non, c'était, okay. C'était avant.
C'était, bon, ouais, c'était ben, marche de longue durée ou pèlerine.
Marche de longue durée ou pèlerine,
ouais. Je vais dire la marche santé.
Marche santé, ah.
Logique.
Et moi, la marche pèlerine okay, de longue durée. Deux. Ouais.
Ben, c'est celle qui arrive en deuxième, en fait. Ah. Celle qui arrive en premier, c'est plus longue randonnée trekking, façon générale, mais pas nécessairement à travers Compostelle, parce que c'est vraiment deux types de marches de longue durée, mais très différents. La première qui était comme dans le bois, dans la montagne, avec tout son barda, tandis que la marche pèlerine ou de longue durée, elle, ça passe dans des lieux habités. Donc, on a besoin de moins de choses. Et on arrive à la dixième question. On a parlé de différents groupes particuliers aussi. Et je vais vous les énumérer. Dans le fond, 11 groupes particuliers. Pas dans tous les épisodes, mais il y a 55 épisodes où on a vraiment des groupes assez... on a fait évoquer des groupes un peu particuliers. Donc, les aînés, les amoureux, les artistes, les enfants, les femmes, les jeunes en difficulté, les personnes non-voyantes, les personnes à mobilité réduite, les personnes des premiers peuples, des résidents des banlieues, et, en dernier, des résidents de quartiers urbains plus centraux. Alors, dans tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qui est revenu le plus souvent?
Bien, c'est parce que ça se chevauche un peu parfois, là, les catégories. Oui. Je dirais les aînés, tiens.
Qu'est-ce que je dirais aussi, moi, les aînés?
Je me rallie.
OK. Les aînés arrivent en deuxième.
Ah, décidément.
Ceux qui sont le plus fréquemment évoqués, c'est les gens de quartiers urbains. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe en ville, etc. Donc, c'est ça qui était le plus fréquent. Bien, ça fait le tour un peu de notre quiz. Puis, en fait, comme je vous l'ai mentionné, j'ai utilisé le moteur de recherche sur le site jemarchepartout.com pour préparer ça. Donc, j'invite nos auditrices et nos auditeurs, bien sûr, à se rendre sur jemarchepartout.com. Et ce moteur-là nous permet vraiment de repérer ce qui nous intéresse facilement. Puis, vous avez un aperçu de certaines des catégories les plus fréquemment utilisées dans le moteur de recherche. Alors voilà, ça clôt notre quiz.
Ça fut fort agréable.
Oui, absolument.
Formidable. Alors, on prend une autre pause musicale et au retour, tiens, vos impressions de la saison qui se termine aujourd'hui, mais surtout, ce qu'on prévoit pour la prochaine saison. Alors, nous sommes de retour avec la grande famille de Marcher vers le bien-être, Sophie, Michel et Michel. J'aimerais d'abord recueillir vos impressions de votre participation à l'émission. Et Sophie, c'est la première année avec la merveilleuse chronique « La balade des mots ». Alors, comment on se sent?
Moi, je suis extrêmement heureuse maintenant. Bon, ça fait un an. Et je trouve absolument magnifique d'avoir découvert. Vous m'avez permis de découvrir des mots, de découvrir des auteurs. Et je pense à ce premier livre que vous m'aviez suggéré qui était « Méfiez-vous des femmes qui marchent ». Ou moi qui suis française, où j'ai appris que Simone de Beauvoir était une grande marcheuse devant l'Éternel. Et donc, moi, c'est ça que j'ai aimé au départ. Et puis, c'est vrai que je me suis cherchée un petit peu dans le fait de aussi écrire des textes. À certains moments, c'était ma propre plume. Et puis c'était... Mais je dirais que lire les mots des autres, c'est quelque chose de très inspirant. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce voyage, cette marche et cette démarche, je dirais. Et parce que je pense que les mots nous permettent de voyager d'une façon absolument extraordinaire. Mmh. Et donc voilà, donc c'est une découverte pour moi. J'ai adoré ça, j'ai hâte de voir la suite et de me balader et puis d'écouter aussi, que ce soit Michel et Michel, tour à tour, les conseils de Michel, les trouvailles du serin pèlerin. Voilà, c'est pour moi une très 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 belle première saison.
Et pour nous de vous avoir aussi.
Voilà, merci.
Et Michel,
Oui, donc moi cette année, je vous ai entretenu sur la marche sous plusieurs angles. Donc on a parlé de marcher avec nos enfants, marcher pour notre système immunitaire, la marche comme un indicateur de santé, pour les genoux, la perte de poids, marcher seul. Et à travers tous ces sujets-là, le fil conducteur qui revient toujours, c'est que marcher, c'est pas juste un déplacement, c'est aussi un outil. Donc, un outil pour notre santé physique, oui, mais aussi un outil pour mieux se comprendre. Donc, un peu comme le texte que Sophie a lu plus tôt, ça allait dans ce sens-là. Donc, il montrait que quand on marche longtemps, le corps est vraiment engagé. Donc, il passe à autre chose. Les perceptions changent, le rythme ralentit, le mental prend moins de place et on devient plus présent.
Oui.
Donc, c'est ce que j'apprécie de...
Et la chronique, c'était un peu nouveau pour vous dans la communication? Vous faisiez quand même quelques vidéos, mais c'est un peu nouveau aussi.
Oui, bien, à travers la gym sur table, qui est l'entraînement postural que j'enseigne depuis, je pense, 20 ans.
20 ans, oui.
Ouais, ça va vite, hein? Ouais. Donc, moi, j'aime bien transmettre. Donc, tout ce qui est pédagogie, aider les gens à augmenter leur niveau de conscience dans le corps. Donc, j'ai quand même développé ça il y a longtemps, l'idée de vulgariser, de transmettre, d'aider à intégrer des notions. Mais de le faire comme ça dans des textes à la radio, c'est sûr que c'est une expérience relativement nouvelle, oui.
Et c'est tellement une belle expérience pour nous également.
Oui.
C'est
Merci.
Un plaisir. Et notre doyen, Michel.
Oui!
Oui, bien, quand on a commencé cette aventure-là, vous aviez dit, ah, ben moi, on s'enligne pour les prochains 5 ans. Moi, je trouvais que c'était un peu ambitieux, mais là, les 5 ans sont terminés, puis dans le fond, c'est comme si on pouvait continuer longtemps. Ce qui me frappe, c'est que la marche, c'est un sujet vraiment inépuisable. Mm-hmm. On peut vraiment l'aborder de tellement de manières que ça en fait vraiment quelque chose qu'on continue à s'intéresser, auquel on continue à s'intéresser. Si on regarde la dernière année, moi, ce qui m'a vraiment frappé plus, c'est qu'on a pris un peu un rythme, qui est le rythme des trois chroniqueurs.
Ah, oui.
Donc, si je me place du point de vue de l'auditeur, ben, on peut s'attendre à ce que ça revienne, etc. Donc, puis avec des entrevues qui ont été vraiment toujours aussi intéressantes. Cette année, on a eu un accent particulier sur plusieurs femmes, en fait, et plusieurs jeunes. On a eu des gens dans la vingtaine, dans le fond, ce qui montre que la marche, ça concerne vraiment tout le monde. Et donc, moi, c'est ça qui me continue à m'intéresser. Le fait aussi de vous appuyer dans votre projet plus large, Je marche partout, dont marcher vers le bien-être est comme un des éléments importants. Mais il y a d'autres éléments aussi, notamment le site jemarchepartout.com, sur lequel on a beaucoup retravaillé cette année, qui offre aux gens intéressés par la marche non seulement tous les épisodes de Marcher vers le bien-être qu'on peut réécouter ou écouter ou télécharger, mais aussi d'autres outils, toute une série de... Il y a au-delà là de 800 citations sur la marche pour les gens qui sont intéressés par ça. Il y a aussi vos chroniques, en fait, de l'émission Debout VM à Radio
oui.
VM. À chaque jeudi matin, où vous parlez encore de marche, donc à Radio VM. Ces chroniques-là sont là aussi disponibles. Alors donc, Je marche partout est comme quand même un plus grand projet que Marcher vers le bien-être. Puis tout ça a commencé avec un livre, en fait, dont on a eu la lecture par Sophie il y a quelques semaines. Donc, je pense qu'on aime ça, la marche. Et puis, je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment nous allons poursuivre pour peut-être encore 5 ans. Là, hein,
ben justement, qu'est-ce que vous prévoyez, Michel? On reste avec vous là pour la prochaine saison.
Ben moi, en fait, je trouve que la formule des trouvailles du serin pèlerin, je
oui,
l'aime bien parce que
oui.
J'ai été interpellé par des livres, des personnes, toutes sortes de choses qui ont un rapport avec la marche. Donc, ça laisse une liberté de se laisser interpeller par toutes sortes de choses puis d'essayer d'en montrer les intérêts à notre auditoire. Alors, moi, j'ai rien de très, très précis encore, mais je sais que ça va se produire comme
vous
ça.
Vous allez chercher, oui, les prochaines trouvailles.
Oh, mais c'est souvent des gens dans mon entourage qui me font remarquer telle chose,
oui.
Etc. Là. Donc, c'est ça, c'est vraiment... ça laisse toute cette liberté.
Oui, la liberté de trouver, de chercher et de trouver. Michel,
je vais continuer, évidemment, à vous parler de santé et du corps. Donc, la relation entre la marche et le système nerveux. Je vais vous parler de mouvement, posture, d'énergie, comment bouger de façon plus efficace, plus consciente, comment intégrer le mouvement dans des moments de vie un petit peu plus chargés ou stressants. Donc, l'idée, ce n'est pas d'en faire plus, là, mais c'est de mieux comprendre comment on bouge pour que le corps devienne un allié et non une contrainte. Mm-hmm. Parce qu'au fond, que ce soit dans un pèlerinage ou une simple marche de quartier, le corps est toujours au centre de l'expérience.
Oui, oui, oui. Et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la dimension scientifique. Vous êtes chercheuse aussi, par extension, et on apprécie le fondement.
Oui, ben j'aime bien faire de la vulgarisation, en fait, de prendre des informations puis de les rendre plus digestes, là, plus faciles à comprendre. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui, oui, c'est là que mon ancien métier de prof trouve des échos dans ces chroniques-là, fond, et de chercheur. Alors, c'est certain qu'on est à une époque où souvent la science est plus ou moins intéressante pour les gens, mais là, ça nous montre qu'au quotidien, finalement, la science peut être très précise. Puis comme le dit souvent Michel, notre corps nous en remerciera.
Oui!
Votre corps vous en remerciera.
Mon slogan. Oui.
Parce qu'au niveau scientifique, on parlait de vulgarisation, mais on trouve toutes sortes de choses sur le web aujourd'hui, sur YouTube, quoi que ce soit. Et parfois, ça ne fait pas tellement sérieux.
Mais il faut avoir du discernement à savoir.
C'est ça, oui. C'est ce que vous apportez.
Quelles sont les. Ben, moi, j'ai toutes les sources, là. Donc, sur les textes qu'on peut trouver en ligne, généralement, les sources sont là aussi.
Alors, il faut écouter le corps en marche pour être bien renseigné. Et Sophie, qu'est-ce que vous nous proposez?
Alors, évidemment, moi, je vais continuer à l'occasion à faire des lectures. On invitera aussi, vous avez cet auditeur qui a proposé ce texte que j'ai lu plus tôt. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent aussi nous envoyer des textes, il me fera plaisir de les lire.
Oui, justement, Monsieur Leblanc nous a envoyé un autre texte. On pourrait peut-être en profiter pour le lire maintenant.
Absolument.
Peut-être?
Non, parce que d'abord, j'ai une petite surprise.
Bon, d'accord, on attend la surprise.
J'ai une petite surprise. Méfiez-vous des surprises, mais bon, écoutez. Hein. Ouais,
mais donc, le quiz était une surprise.
Oui, c'est ça.
Ça n'a pas été si pire, finalement.
Donc, voilà, et qui, en fin de compte, et c'est amusant parce que c'est relié, au fond, à ma lecture. J'ai réalisé, c'était la dernière ou l'avant-dernière chronique, quand j'ai fait la lecture de... quand il y a eu
l'homme
cette lecture de L'homme qui marche partout.
Oui.
Et donc, j'ai donc un message pour vous, Denis. Cher Denis... J'espère que vous vous portez bien. Je me présente. Je m'appelle Finette et je vous envoie ce message de France, plus précisément de ma petite maison dans l'arrière-pays de la ville de Nice, pour vous raconter une histoire incroyable. Par le plus grand des hasards, si tant est qu'il existe, car comme disait ma grand-mère, le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, mais bon, ça c'est une autre bouillabaisse. Donc c'est par hasard, un jour que je me promenais dans mon bel arrière-pays niçois pour ramasser de la lavande, que je croise un beau vieux gaillard, avec une forme olympique. Comme il s'arrêtait sur le chemin pour boire un coup, il me salue et on se met à jaser tout naturellement. Et il se met à me parler de la marche avec un enthousiasme débordant de joie et de passion quasi mystique. « Eh oui, vous l'avez reconnu, c'était Francesco, celui de votre livre, l'homme qui marche partout !» Et qu'il m'a offert d'ailleurs, il en avait un exemplaire sur lui. Et de fil en aiguille, il me raconte toute l'histoire de votre rencontre au bord du Saint-Laurent et que vous faites de la radio avec une émission qui s'appelle « Marcher vers le bien-être ». Avouez, je lui dis, eh bien, marcher vers le bien-être, mais c'est tout un programme, toute une aventure. Ça m'intéresse, parce que moi, la Finette, j'ai toujours marché, mais vers une destination précise. Mais que cette destination soit le bien-être, j'ai trouvé ça aussi mystérieux qu'inspirant. Et là, Francesco de me dire, avec l'internet, vous pouvez écouter l'émission, même à 6000 km de distance. Et puis, Francesco est reparti comme il était venu, le pas joyeux, en me disant, ciao à la prossima, et pensez-y, la marche c'est la vie. Ma récolte de lavande sous le bras, je rentre chez moi et je me branche sur l'internet. Je navigue, et je tombe sur l'émission
marcher dans le désert. Peu cher! Là, les bras me sont tombés. La chroniqueuse de la balade des mots, la Sophie, c'est ma cousine! Cette cousine, bon, plus parisienne que provençale, personne n'est parfait. Mais cette cousine qui un jour a décidé de quitter notre beau pays de France pour venir s'établir dans votre pays, qui paraît-il n'est pas un pays mais l'hiver. Faudra que je vienne voir, hein, parce que votre hiver, ça m'a l'air du costaud. Hein. Bref, la Sophie, dont j'avais plus trop de nouvelles, je la retrouve en train de marcher chez vous. Incroyable! Bref, j'écoute l'émission, et puis une autre, et encore une autre, je voyage, j'écoute les témoignages, les aventures des belles personnes que vous recevez, et en plus, je découvre les formidables conseils de Michel, votre ostéopathe professionnel de la posture. Et je retiens par exemple que marcher en solitaire, ça augmente de 60% la créativité du cerveau. Ou que plus on marche, plus on peut utiliser les graisses comme carburant. Ou boudiou, ça c'est bon pour mes poignées d'amour. Et puis l'autre Michel, votre serein pèlerin, ses trouvailles. Jamais je n'aurais pensé qu'on pouvait circuler dans des escaliers de manière artistique. Ou encore d'apprendre que désormais, il y a plus de femmes qui font le chemin de Compostelle que d'hommes. Du coup, ça me titille le tempérament de peut-être m'y frotter. Mais bon, bref. Tout ça m'a laissé pantoise, mais surtout m'a donné un coup de pied au derrière et l'envie d'une folle démarche. Me mettre en marche, de toutes les façons possibles, portée par cette sainte trinité formée par le corps, le cœur et l'esprit, pour aller à la découverte de cette destination si vaste qu'on appelle bien-être, et toutes les formes que cela peut prendre, en mettant un pied devant l'autre. D'ailleurs, paix à mon âme, ma grand-mère qui était une grande marcheuse devant l'Éternel me répétait souvent, et surtout quand je filais pas trop, « Lève-toi et marche !» Alors, mon cher Denis, merci. Et si vous le permettez très modestement, j'aimerais bien, lors de votre prochaine saison, venir me glisser à l'occasion dans la balade des mots de ma cousine Sophie, histoire de vous faire un petit coucou plein de ma chaleur provençale au cœur de votre rude hiver québécois. Et vous partagez un petit bout de chemin parcouru, une réflexion, une rencontre. Partagez tous ces trésors qui m'attendent sans que j'aie rien d'autre à faire pour les découvrir que de conjuguer au présent le verbe marcher et tous ces merveilleux acolytes. Arpenter, cheminer, déambuler, flâner, vagabonder. Alors, que la marche de la vie et la vie de la marche vous gardent, et sous le ciel étoilé de ma Provence, je vous dis Adésias, Denis.
Oh, waouh!
Mais elle est gentille, votre cousine,
ma cousine,
la Finette.
Donc, elle m'a, quand tout d'un coup, Finette, d'abord, je l'ai retrouvée, ça fait des années qu'on ne s'était pas parlé, et là, tout d'un coup, je vous... Donc, voilà, donc, je vous transmets ce message. Donc, écoutez, si vous acceptez que de temps en temps, ces débordements avec son provençaux. Accent provençaux viennent nous conter quelques histoires, elle sera présente durant la prochaine saison.
Alors, Michel et Michel, vous en pensez quoi?
C'est fantastique. J'adore.
Ben, comment ne pas être enthousiasmé?
Alors, vous communiquez avec votre cousine,
voilà,
Finette.
Voilà, absolument. Finette sera ravie. Puis un jour, peut-être même qu'elle débarquera, parce qu'elle veut venir découvrir.
Ah oui.
On l'invitera peut-être même un jour en studio. Je veux dire, avec grand plaisir.
Absolument. Ah, mais que ça fait chaud au cœur.
Oui.
On nous écoute tellement loin. Formidable.
Tellement loin.
Oui, oui, oui. Ben avec tout ça, le temps file. Et puis, il nous reste une minute ou deux. Est-ce qu'il y a quelques sentiments, quelques impressions que vous aimeriez partager?
Moi, je suis curieux d'entendre la lecture de notre ami de Rimouski par notre lectrice si attentive.
Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que vous voulez
Ah oui, ben prenons le temps pour Monsieur Leblanc.
Puis après,
Monsieur
Leblanc. Après, je pense qu'on pourra encore entendre votre magnifique voix en conclusion.
Donc, ce texte donc, de Monsieur Leblanc, son message. Belle émission hier soir, mardi 22h. Quand on marche, on est effectivement dans un désert, mais un désert habité, une solitude, mais dans laquelle on se rencontre soi-même. On peut dire que tous les marcheurs ont éprouvé ce genre d'expérience. De fait, quand on marche, que ce soit un trek à Katmandou, un pèlerinage à Saint-Jacques, ou une randonnée sur un sentier québécois, on avance infailliblement. Je me suis déjà rendue, dans mon jeune temps,
commencement des années 70, au début de la plaine saharienne, sud de la Tunisie, et ce réel voyage, qui n'était pas du surtourisme à l'époque, m'a inspiré quelques laïus dont je joins un extrait plus bas. Silence du désert. Le désert n'est pas d'abord un point sur une carte, il est un état d'esprit, il est habité. Le silence y est audible. Les nomades qui marchent silencieusement vers les points d'eau sont en fait à la recherche d'eux-mêmes. Au soir, sous la tenture noire d'un ciel piqué d'étoiles, entouré des dunes d'un sable encore brûlant, dans le silence d'un cosmos saturé d'astres, on n'entend que le crépitement d'un petit feu sur lequel bout un thé et la conversation lente à voix basse des caravaniers. L'immense balai des étoiles, le ronron doux de la théière, la fraîcheur de la nuit font oublier la fournaise du jour. Les voyageurs se racontent des histoires pour rêver, pour tracer une image du monde, mais surtout pour se reconnaître l'un l'autre.
Et ça rappelle votre très belle lecture justement sur le désert.
Sur le désert.
Oui, sur le désert.
Et c'est un très beau texte. Et donc j'invite les auditeurs, si vous avez des textes comme ça de votre cru, allez-y, j'y prêterai ma voix avec grand plaisir.
Alors on peut les communiquer à l'adresse suivante, info@jemarchepartout.com, info@jemarchepartout.com.
Ben, c'est déjà l'heure de terminer cette dernière émission de la saison.
Mais avant de partir, vous pourriez, une petite faveur comme ça, là, nous relire votre très beau texte « Marcher vers le bien-être ».
Marcher vers le bien-être, ça commence tout petit. Quand encore tout branlant au service de la vie, l'enfant sur ses deux jambes se dresse et s'enhardit, mu par une force farouche vers une mère qui sourit. Marcher vers le bien-être, d'abord, c'est vers maman. Quelle foi considérable doit se mettre en mouvement pour trouver l'équilibre et oser cet élan, faire un pas après l'autre, tomber, se relever, capituler parfois pour mieux recommencer. Marcher vers le bien-être, c'est un pas qui grandit. À force de tentatives, enfin il s'aguerrit. Aller un peu plus loin, vertigineux désir de découvrir le monde et de le conquérir. Le pas se fait plus sûr, il se met à courir vers toutes ses tentations et ses moultes plaisirs. Marcher vers le bien-être, c'est alors se construire. C'est le temps des avoirs, c'est le temps de bâtir. Famille, travail, loisirs, on déambule alors du point A au point B sans le moindre temps mort. Et puis, un événement souvent inattendu nous fait réaliser qu'on s'est un peu perdu. Qu'il nous manque quelque chose dans cette course folle, que ralentir le pas est loin d'être frivole. Marcher vers le bien-être redevient essentiel. Alors viennent les questions que l'on adresse au ciel. Marcher vers le bien-être, c'est oser le silence, au creux de la nature, trouver la providence, et au cœur de soi-même, oser s'aventurer sur ce chemin tracé vers l'intériorité. En sachant qu'à chaque pas, dans le doute et la foi, nous est offert le choix de suivre ou non la voie. Marcher vers le bien-être n'est-il ni plus ni moins que d'aspirer à être des hommes ou femmes de bien ? Marcher vers le bien-être n'est-il ni plus ni moins que le désir ardent d'embrasser le divin.
Bravo ! Belle façon de terminer la saison. On pourra quand même nous écouter pendant l'été grâce aux rediffusions et on se revoit au mois de septembre. Alors, oui. Sophie, Michel, merci beaucoup de notre merveilleuse saison et à la prochaine.
Merci à vous, Denis.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Michel O'Neill, Michel Cousinat-Baudet et Sophie Hartung. Merci également à Jérôme Costigan à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de George Bernard Shaw. Vivre ne consiste pas à se découvrir soi-même, mais à se construire. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!